Le magnétiseur, troisième partie. « Voilà bien le docteur au miracle !» s'écria Bickert lorsqu'on eut emporté Maria endormie dans sa chambre et qu'Otmar se fit retirer. Le regard profond et extatique de l'illuminé, les manières emphatiques, la prédiction prophétique, le petit flacon d'élixir miraculeux. Je regardais pour voir s'il n'allait pas à mes yeux s'évaporer dans l'air, comme Swedenborg, ou du moins sortir comme Belrace avec son frac subitement changé de noir en rouge. Bickert, interrompit le baron, qui avait vu emporter Maria sans bouger de son fauteuil, muet et consterné. Bickert, qu'est devenue notre joyeuse soirée ? Mais j'avais pressenti intérieurement que quelque malheur viendrait me frapper aujourd'hui. J'avais deviné qu'un accident fatal ramènerait Alban parmi nous. Et précisément au moment où Omar le citait, il apparut, semblable au génie familier qui veille constamment. Dis-moi, Bickert, n'est-ce pas par cette porte qu'il est entré ? Certainement, répliqua Bickert, et ce n'est qu'à présent que j'y prends garde. Comme un autre Cagliostro, il nous a fait là un petit tour de passe-passe que notre inquiétude et notre anxiété nous ont empêchés de remarquer. L'unique porte du vestibule là-bas, je l'ai fermée en dedans moi-même, et en voici la clé. Oh, je peux m'être trompé, cependant, et l'avoir laissée ouverte. Bickert alla visiter la porte et s'écria en riant à son retour, « Le Cagliostro est complet, et la porte est exactement fermée, comme je le disais. »« dit le baron, « le docteur au miracle commence à se transformer en un vulgaire escamoteur. » J'en suis fâché, répartit Bickert. Alban a la réputation d'un habile médecin, et à vrai dire, lorsque notre Maria, autrefois si bien portante, tomba malade de ses scélérats de maux de nerfs et que tous les moyens curatifs furent échoués, Alban l'a guéri en peu de semaines par l'application du magnétisme. Tu t'es décidé bien difficilement à le permettre, et seulement après les instances réitérées d'Otmar. En voyant, hélas, flétrir de plus en plus cette fleur magnifique qui levait auparavant vers le soleil une tête si libre et si joyeuse. « Crois-tu que j'ai bien fait de céder aux prières d'Otmar ?» demanda le baron. « À cette époque, assurément, répondit Bickert, mais le séjour prolongé d'Alban chez toi ne me flatte pas précisément. Et quant au magnétisme... « Tu le rejettes absolument, » dit le baron. « Point du tout, » répliqua Bickert, « je n'aurais pas même besoin pour y croire de un phénomène produit par lui et dont j'ai été témoin. Oui, je ne le sens que trop. En lui résident les secrets de l'enchaînement et des merveilleuses corrélations de la vie organique. Mais toute notre science là-dessus reste une besogne à faire. » Et l'homme dut-il acquérir un jour l'entière possession de cet intime secret de la nature, je verrais dans celle-ci une mère qui aurait perdu par mégarde un instrument tranchant qui lui servait à façonner mille objets charmants pour le plaisir et la récréation de ses enfants, et dans nous-mêmes, les enfants, qui, venant à trouver l'instrument dangereux, se blesseraient à coup sûr en voulant indiscrètement imiter leur mère dans la confection des mêmes ouvrages. Tu viens d'exprimer, avec une admirable justesse, le fond de ma pensée, dit le baron. Mais quant à ceux qui regardent particulièrement Alban, j'éprouve un embarras extrême pour m'expliquer et accorder entre eux tous les sentiments singuliers que me fait éprouver son voisinage. Parfois, je crois être parfaitement éclairé sur son compte. L'abus de sa science profonde l'a fait tomber dans de folles rêveries, mais son zèle, ses succès, lui concilient justement l'estime. Mais ce n'est qu'en son absence qu'il m'apparaît ainsi. S'approche-t-il de moi ? Cette image s'évanouit aussitôt, et je suis frappé de terreur en discernant dans ce caractère 20 traits difformes pris isolément, sans pouvoir cependant former un tout analogue. Lorsqu'Otmar, il y a plusieurs mois, l'amena ici comme son ami le plus intime, il me sembla que je l'avais déjà vu quelque part. Ses manières délicates, sa conduite réservée me complurent, mais en général, sa société n'avait pas de charme pour moi. Bientôt après, et cela m'a plus d'une fois frappé grièvement au cœur, Maria, immédiatement après l'apparition d'Alban auprès d'elle, Maria, comme tu le sais, fut atteinte de cette singulière maladie. Je dois l'avouer, Alban, dès que je me déterminai à le consulter, entreprit sa guérison avec un zèle incomparable. Il y mit un dévouement, une constance, une abnégation, qui devait lui mériter, grâce à la réussite la plus complète, une affection et une reconnaissance sans bornes. J'aurais voulu le couvrir d'or. Eh bien, le moindre mot de remerciement coûtait à lui adresser. Sa méthode magnétique m'inspirait d'autant plus d'horreur qu'elle était couronnée d'un plus grand succès. Alban me devint enfin lui-même plus odieux de jour en jour, et il me semblait que, dussé-je moi-même lui devoir mon salut dans un imminent danger, cela ne lui ferait rien gagner dans mon esprit prévenu. Et pourtant, son air solennel, ses discours mystiques, même son charlatanisme, lorsqu'il magnétise par exemple les tilleuls, les ormes et quels autres arbres encore, lorsque les bras tendus vers le nord, il prétend attirer en lui une force nouvelle émanée du principe universel, tout cela me remue d'une certaine manière, malgré le mépris que je ressens au fond du cœur pour de pareilles manœuvres. Mais, Bickert, écoute bien. La circonstance la plus étrange est que depuis qu'Alban est ici, je me vois plus souvent que jamais ramené à penser à mon major danois, dont je vous ai tout à l'heure raconté l'histoire. Ce soir même, ce soir, lorsqu'il me parla, avec ce sourire sardonique et vraiment infernal, en fixant sur moi ses grands yeux noirs comme des charbons, le major en personne était devant moi. Oui, c'est une ressemblance frappante. Eh, parbleu, s'écria Bickert, voilà toute l'explication de tes étranges mouvements à son sujet. Ce n'est pas Alban, c'est le major danois qui t'inquiète et t'obsède. Le brave docteur porte la peine de son nez recourbé et de ses yeux noirs rayonnants. Tranquillise-toi tout à fait et chasse les sombres idées qui t'agitent. Alban peut être un visionnaire, mais assurément il veut le bien et il le pratique. Le passons-lui donc ses charlataneries, qu'il les garde comme un jouet innocent, et accordons-lui notre estime à titre de médecin habile et clairvoyant. » Le baron se leva et dit en prenant les mains de Bickert, « Franz, ce que tu viens de dire est contraire à ta conviction intime. C'est un palliatif que tu emploies pour calmer mes craintes et mon inquiétude, mais je le sens amèrement au fond de mon âme. Alban est mon mauvais gémeau. Franz, je t'en supplie, je réclame ton attention, ta prévoyance, tes conseils, ton appui, si quelque accident venait à ébranler, à compromettre mon vieil édifice de famille. Tu me comprends, il suffit. » Les deux amis s'embrassèrent, et minuit était sonné depuis longtemps, lorsque chacun eut regagné sa chambre, pensif et l'esprit inquiet. À 6 heures précises, Maria se réveilla comme Alban l'avait prédit. On lui donna 12 gouttes du petit flacon, et 2 heures après, elle parut, enjouée et florissante, dans le salon de réunion, où son père, Otman et Bickert l'accueillirent plein de joie. Alban s'était enfermé dans sa chambre et fit dire qu'une correspondance pressante l'y retiendrait toute la journée.